Merci beaucoup, professeur Henri Atlan, pour votre très prolifique exposé. Nécessairement, ma question va être réductrice. Je ne peux pas aborder tout ce que vous avez abordé. Puis en plus, il me revient à moi de poser la première question. Donc, ce n'est pas un exercice évident. Mais vous avez donné une réponse à la fin sur le sens caché du tétragramme. La question que je me posais au fil de votre exposé, c'était évidemment la fonction et le sens de devoir cacher la vocalisation primitive du tétragramme. Et peut-être dans une dimension à la fois anthropologique et politique, je me demandais si il n'y avait justement pas un sens politique au fait de cacher la vocalisation primitive du tétragramme. Donc, j'y arrive, alors ça va être un petit peu long pour arriver jusqu'à ce sens-là, mais quand vous disiez que, c'est un peu de linguistique, quand vous disiez que le nom désigne, ou le nom est une adresse, il y a aussi cette dimension, il me semble, dans la Torah, où effectivement le nom a une capacité de familiarisation du monde. C'est-à-dire quand on donne le nom à des choses, ces choses-là acquièrent ne sont plus des choses étrangères. Donc il y a une familiarisation du monde par le nom. Et puis le deuxième point, c'est qu'évidemment, il y a un pouvoir créateur du langage, un pouvoir créateur du nom. Or, si on pense évidemment à Dieu, on peut imaginer qu'il y a une antériorité de Dieu au monde et que de ce point de vue-là, il n'y a personne qui peut désigner, qui peut donner le nom de Dieu à Dieu, si ce n'est un Dieu supérieur, et donc on en revient à une cause infinie. De sorte que il y a cette origine du nom, cette antériorité du nom de Dieu qui fait qu'il ne peut pas être nommé lui-même. Et la conséquence de ça, c'est que il n'y a pas de pouvoir sur le pouvoir de Dieu, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas le pouvoir de nommer Dieu. Et l'autre conséquence de ça, c'est que le pouvoir de Dieu, de ce point de vue-là, est inaliénable, inappropriable. Ce qui correspondra à une espèce de liberté, peut-être une source de liberté originelle et primitive. Donc ça, c'est le premier point. Mais l'autre dimension politique, c'est dans les termes de l'Alliance par rapport au peuple, c'est que le peuple serait attaché à ce nom inappropriable, à ce nom inaliénable. Ce qui peut-être indique aussi la condition juive, une condition juive qui est une condition qui est inaliénable par les autres peuples, ce qui fait que peut-être aussi on s'acharne sur les juifs, j'y pense évidemment, étant donné le contexte. Donc je pensais que le fait de cacher le nom, ça avait un sens politique. Il y a évidemment un sens de conjuration de l'idolâtrie, peut-être. Il y a toujours une dimension de conjuration derrière les interdits, mais il y a aussi peut-être, je ne sais pas, une dimension politique comme ça qui serait expliquée par une forme d'inaliénation originelle du nom de Dieu.
Je reviens dessus, c'est un certain point, qui est qu'est-ce que vous entendez par Dieu ? Il faut parler en hébreu.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par Dieu en hébreu ?
Le nom qu'on ne peut pas vocaliser. C'est pour ça que je n'utilise pas.
De la dénomination des noms par des noms propres. Si vous allez dans le livre dont je vous parlais de Saul Kripke, il prend l'exemple, si vous voulez, de la planète Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. Alors évidemment, là, quand on dit Vénus, on désigne quelque chose qu'on voit et on lui donne un nom. Donc, comme vous avez dit, en effet, quand on donne un nom aux choses, on les détermine d'une certaine façon par le nom qu'on leur donne. Mais encore faut-il qu'il s'agisse d'une chose, soit qu'on puisse montrer, soit qu'on puisse définir, soit comme ceci. Dans le cas du nom de Dieu, ça ne marche pas, parce que justement, c'est le nom lui-même qui définit. Bon, donc, par conséquent, si vous voulez, c'est pas quelque chose d'inappropriable. Dieu n'est pas inappropriable. Ce qui est inapproprié, et le nom non plus d'ailleurs, parce que le nom en tant que nom, c'est une chose. Et la preuve, c'est qu'on joue avec lui, on utilise ses lettres, on en fait des permutations, etc., etc. Tout le monde, le nom, c'est quelque chose. Et en plus de ça, on s'en sert aussi dans la loi. Et il en reste maintenant, dans certaines législations, y compris maintenant, le rôle du serment. Dans la Bible, le serment est un châtiment. C'est-à-dire, c'est une des façons de juger qui consiste à faire jurer. Bon, donc mais là aussi, jurer quoi? En utilisant le nom, précisément. Donc là, c'est ce qui reste comme pouvoir au nom. Mais en tant que nom, pas en tant que nom de Dieu, puisque on ne peut pas le dire. En hébreu, en tout cas, on ne peut pas le dire. Alors, quand on dit Shem Hashem, ça c'est encore mieux, là. Ça veut dire le nom du nom, quoi.
Merci. Daniel, il a eu ma main.
Monsieur Atlan, finalement, cette vocalisation impossible n'est-elle pas le meilleur moyen d'accéder à l'abstraction ?
À l'abstraction.
C'est-à-dire finalement de permettre de manière politique de créer une institution extérieure qui pourrait être acceptée peut-être plus facilement par les hommes, une hétéronomie qui serait finalement plus efficace politiquement qu'au moment de créer un peuple justement, finalement plus efficace que le nomos, que l'autonomie.
Enfin, peut-être, mais est-ce qu'on en a besoin pour créer l'abstraction ?
Peut-être que c'est un pas pour finalement passer de la façon de nommer les choses, les dieux qui existaient à l'époque, enfin qui en tout cas qui étaient les dieux ou autre chose, hein, effectivement, comme nom, c'est vrai que c'est restrictif.
Mais pourquoi est-ce que vous parlez d'abstraction ? Parce que vous pensez que Dieu est plus abstrait qu'au concret ?
Je parle par rapport à des institutions humaines. Politique sur lesquelles pourrait se fonder la constitution d'un peuple.
Ah ben oui, d'accord. À ce moment-là, c'est le dieu du peuple. Ben, en effet, ça nous, on est bien d'accord. Ça. Mais là, il est nommé, là. Il n'est pas caché.
Oui.
Donc,
Oui, la vocalisation n'est pas l'élément essentiel, du coup.
Non, parce que ça commence déjà avec la Torah Shebirtav. C'est le dieu du peuple, c'est pas...
Jean-Michel Toledano.
Bonsoir. Je voudrais réagir par rapport à ce que vous avez dit, madame. L'antériorité de Dieu par rapport au monde. Vous parlez du Dieu des philosophes. Certainement pas ce dont le professeur a parlé, Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas y avoir d'antériorité de Dieu par rapport au monde. Ça n'a pas. Disons, excusez-moi. Il ne peut pas y avoir d'antériorité d'Akadosh Baruch Hu par rapport au monde. Parce que le monothéisme, c'est ça. Il n'y a pas une existence et une essence. Il n'y a pas une volonté et une action. C'est ça, ça veut dire Hachem Echad. Donc, il n'y a pas de changement. Il y a une permanence. Donc, Akadosh Baruch Hu veut et a toujours voulu le monde. Et dès qu'il l'a voulu, le monde était. Donc, poser les termes comme vous l'avez posé en termes d'antériorité, je veux dire, je comprends très bien. Dans le monde de la philosophie, j'adhère. Dans le monde dont on parle ici, ça n'a pas de sens. D'accord ? Le nom de Dieu, le nom d'Hachem, c'est Israël. Parce que c'est la même chose. Autant permanent, autant existant. Donc, la dimension politique d'Israël, ça, c'est une autre question. C'est est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'Israël est un être politique, une chose politique ? Ou pas. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Mais je voulais pas que ça passe parce que c'était trop éloigné pour moi du sujet qui était ici abordé.
Pas de questions. Avec vous.
Merci beaucoup pour votre intervention extrêmement érudite, aussi bien dans les sciences du judaïsme que dans les sciences générales, et en particulier dans le domaine de l'archéologie, de l'épistémologie, de l'épigraphie, etc. Alors, j'ai deux remarques, et je reprendrai quand même cette question sur l'acte politique. Tout à fait au début de votre intervention, vous aviez l'air de considérer que c'était un désavantage, en quelque sorte, d'être passé à l'écrit, en disant que c'était un acte politique de Yohanan ben Zakkai d'avoir réinventé le judaïsme en passant à l'écrit. Ce point-là, j'aimerais bien qu'il soit un peu élucidé. Deuxième remarque que je voulais faire par rapport à ce que j'ai compris de votre exposé, c'est qu'on avait... Pardon ? Oui, mais alors vous avez fait le lien, si vous voulez, entre le fait de passer à l'écrit et d'inventer une autre Torah écrite, en quelque sorte, et aussi l'acte de Yohanan ben Zakkai, qui, au moment où le temple était détruit, et donc toute la vie juive autour du temple, il a réinventé le judaïsme. Donc il y a deux éléments d'invention, là, qui sont peut-être des actes politiques, je ne sais pas si c'est une question que je pose. Pardon ? Ah, donc le judaïsme oral serait une invention. Ce serait pas quelque chose qui serait là et qu'on aurait mis par écrit. C'est une invention. Oui. Mais alors, pour vous, c'est un acte politique. Donc il y a deux actes là, le fait d'avoir transmis oralement, d'avoir institué une Torah orale, et d'autre part, d'avoir aussi mis par écrit.
Oui, mais alors ça, effectivement, c'est parce que c'est un désaveu.
Ah.
Il n'y a pas moyen de faire autrement.
Que ça se perde. Oui. C'est moins politique, en somme, que le premier.
Bah, d'une certaine façon, oui, parce que ça a jeté... Parce que le premier a continué.
Oui, absolument, ça continue. Ma deuxième question, là, c'est... J'ai cru comprendre, finalement, que cette question du caractère caché de Dieu, du Dieu auquel croient les Juifs, du Dieu imprononçable, dans votre exposé, ce serait donc lié à une sorte de conversion d'un Dieu étranger qui serait un El mésopotamien et qui serait intégré, converti dans... au judaïsme, en quelque sorte.
Oui, c'est une hypothèse, en fait, non, ça, il y a plus de certitude, mais après, il y a beaucoup d'arguments.
Voilà. Et alors, donc, c'est une hypothèse assez différente de ce qu'on avait entendu depuis Freud avec l'histoire du dieu égyptien, Akhenaton, etc.
Ah.
Voilà, c'était juste pour essayer de situer.
Est une manière d'invention politique destinée à assurer la perpétuité d'un peuple qui devait survivre dans des conditions précaires, vous assumez la secondarisation de la Torah orale par rapport à la Torah écrite. C'est-à-dire que nous, si je puis dire, il règne comme un parfum de bien-entendu, que Torah orale et Torah écrite vont toujours de pair, qu'elles sont associées, etc. Là, vous dites qu'il y a vraiment un acte politique de renouvellement qui est passé par l'invention d'une Torah orale qui, si je puis dire, n'existait pas, qui n'existait pas auparavant.
Ça a commencé à exister avec la tradition pharisienne qui avait commencé déjà à se développer, y compris pendant quand le temple existait encore. C'est-à-dire que les pharisiens ont existé avant Babylone,
d'accord ? Bien sûr.
Une des sectes philosophiques qu'on nous appelle, comme Joseph, là, qui divisait le peuple juif, mais malgré tout, le temple était toujours là. Les pharisiens eux-mêmes étaient obligés de passer par le culte des sadducéens, donc des prêtres, qui étaient eux-mêmes sadducéens, avec qui ils n'étaient absolument pas d'accord, etc.
Mais si vous voulez, bon, il y a des passages où on voit le choc. Par exemple, la fameuse Mishnah dans Sanhedrin, quand l'Israël dit tout le peuple à part, tout l'Israël à part le futur, sauf cela. Alors, sauf ceux qui n'ont pas part. Ceux qui n'ont pas part, par exemple, si vous voulez, après on voit dans la Gemara comment c'est qu'ils discutent. Par exemple, ils n'ont pas part, ceux qui disent que un triat avec une natura, qu'il n'y a pas de résurrection des morts de la Torah. Ils ont raison, il n'y a pas de résurrection des morts de la Torah. Et après, la discussion dans la Gemara, où justement, là, visiblement, c'est contre les sadducéens, c'est pas dit explicitement que c'est mon projet, c'est contre les sadducéens, et qui amène, les parisiens amènent des versets. Bon, mais évidemment, les versets sont interprétés suivant les méthodes des choses et des idoles, mais c'est parmi lesquelles il y a des techniques qui sont présentes dans les sens, comme le Gzar Shava ou bien le Antikra est là. C'est-à-dire que visiblement, ils inventent, c'est-à-dire ils accrochent. Alors les gens disent qu'ils commentent la Torah, ils ne la commentent pas. Ils projettent sur la Torah écrite des significations qu'ils inventent de toute pièce.
Voilà, c'est ça qui m'intéresse. De toute pièce ou pas de toute pièce?
D'une certaine façon, c'est de toute pièce. Bon, il y a certainement des racines communes, mais ces racines-là, elles ne sont pas évidentes du tout. Ça se traduit d'ailleurs par l'aucune. Si vous voulez, tout ce qu'on appelle les prières journalières, etc., ça n'existait pas.
Oui, mais justement, il existe des textes de la Torah orale qui nous disent, par exemple, que les patriarches connaissaient telle ou telle disposition de la Torah orale. C'est quoi? C'est une légitimation à part et poste de ce qui...
C'est évident.
D'accord.
C'est évident d'après le texte lui-même, ça veut dire qu'il projette des choses.
Non, mais j'ai très bien compris, je voulais juste que...
Quand on vous dit par exemple, Altikra, je ne sais pas quoi, enfin, Banaïr, la Banaïr, tout simplement pour le faire, on veut lui faire dire verset 2, il ne faut pas que ça fait rien. Changez le de telle sorte qu'il le dise. La Zéra Shabbat, c'est pareil. D'ailleurs, on dit que certaines Zéra Shabbat sont tellement.
Elles sont élues.
Tout ça, ce sont des moyens par lesquels, en effet, donc, la Torah orale se raccroche. Mais donc, c'est là où c'est assez génial. C'est-à-dire, se raccroche à la Torah écrite alors qu'elle est complètement différente.
D'accord, c'est ça que vous voulez.
Merci beaucoup. Il y en a du bol.
Je voulais vous soulager sur une question à propos de cet usage de mettre un point quand on écrit le nom de Dieu ou même le mot Dieu. Cet usage, il vient du fait que le nom de Dieu, quand il est écrit, par exemple, sur une feuille, après, on ne peut pas jeter la feuille.
Mais de quel nom vous parlez, pas de nom français ?
Pourquoi pas ? C'est une traduction. Et oui, alors, non, mais c'est, ça a fait l'objet d'une discussion chez les décisionnaires que le nom de Dieu... Même quand il est traduit, eh ben, si celui qui l'utilise, il renvoie au nom de Hachem, alors on ne peut pas le jeter. Donc, si on fait un cours de religion et on écrit le nom de Dieu sur la copie, on parle... quel est le problème ? Mais moi, j'ai pas de problème dans votre manière de parler. On peut dire Elohim si, quand on dit le mot Elohim, on est sérieux et on pense à ce qu'on dit. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de tabou à dire le nom de Dieu. Et il est différent de l'écrire sur une feuille. C'est pour ça que dans cette feuille, je ne sais pas qui a eu la charge de l'imprimer, mais il a eu l'intelligence de ne pas écrire le nom de Dieu tel qu'il est. Sauf pour Keyer. Keyer, il a échappé, donc on ne peut pas jeter ses feuilles qui contiennent un nom de Dieu écrit. Maintenant, votre manière de parler, qui est tout à fait recevable, de dire le nom de Dieu sans restriction. C'était en usage dans beaucoup de communautés en Afrique du Nord et au Yémen, mais dans les communautés d'Europe. Même ça, on a pris comme précaution oratoire de ne pas dire le nom Elohim ou Adonai, mais d'utiliser des autres noms d'emprunt. Maintenant, pour ce qui en est de mettre un point quand on écrit le nom de Dieu, c'est une décision que vous pouvez retrouver dans le Keset HaSofer, qui dit que le nom de Dieu, même dans une traduction, s'il est écrit sur un support, on ne peut pas jeter ce support à la poubelle.
Oui, mais j'ai une question là. Parce que si tu mets un...
Vous, vous parlez de tabou, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors que le nom Dieu, c'est un nom de la langue comme Elohim, c'est un nom de la langue. Mais dans la Torah, la Lashon HaKodesh. Et vous avez vu vous-même dans le Mizmor de Tehilim qui peut avoir plusieurs traductions.
Vous savez, je veux vous citer une phrase. Évidemment, il étudiait le philosophe en grec. Et il était très énervé par les philosophes qui n'étaient pas grecs et qui parlaient d'Aristote et de Platon, etc. Et en particulier, d'ailleurs, y compris sur cette question-là, il disait que ne croient en Dieu que ceux dont la langue contient le mot Dieu. Or, l'hébreu ne contient pas le mot Dieu.
Mais je peux poser une objection à ce que vous avez dit. Si vous dites Dieu, on ne peut pas déchirer une table dans laquelle il y a le mot Dieu. Si vous voulez insérer le trois points de suspension, le mot nouvellement écrit sur ce nouvel orthographe a la même fonction que le mot qui remplace. Donc je ne comprends pas en vérité ce qu'on gagne à substituer une orthographe à une autre.
Celui qui écrit le mot Dieu, D-I-E-U, en pensant à Hachem, alors
donc,
si.
Hachem, quand vous dites Hachem, vous dites le nom.
Ouais, le nom.
Quand vous dites Dieu, quand vous dites Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Pourquoi vous ne dites pas le nom ? En français, ça veut dire le nom.
Comme Béni Lévi. On peut, moi je suis d'accord. L'usage c'est de dire Hachem, mais on peut dire aussi le nom. Ben, il n'y a pas de problème. Ça fait un peu. Ça jure un peu. Donc, celui qui écrit D-I-E-U en pensant à le nom, eh bien, le support sur lequel ce mot a été écrit. Alors, si quelqu'un le détruit, il ne recevra pas les 39 coups de flagellation, parce que ce n'est pas le nom propre. Mais il aura transgressé un interdit.
Si j'écris
d'après le Keset HaSofer, un interdit
si
rabbinique.
J'écris, si j'écris D-I-E-U, je pense aussi à le nom.
Ah.
Donc, je pense que j'ai gagné le passage.
Tu penses, mais le support, il ne contient pas le mot « Dieu » qui renvoie
ça, c'est...
à le nom. Le mot D-I-E-U, eh ben, c'est un mot qui n'existe pas en français.
Mais on est prisonnier de l'arbitraire du signe des langues, alors.
Tout à fait.
Bravo. Considérable.
Bravo. Non, c'est la même exigence en français qu'en Lashon HaKodesh.
Donc on est obligé de créer un néologisme.
On est obligé. C'est une précaution. Quand on a écrit le nom de le nom sur un support, c'est une précaution. Eh ben, d'introduire quelque chose qui va faire que ce mot ne renvoie pas à un mot qui renvoie à le nom.
Donc toute langue est Lashon HaKodesh.
Toute langue a la possibilité de traduire les mots du Lashon HaKodesh.
C'est très important ce qu'on dit là. Pardon.
Que chez les Romains. Il n'y a que les Romains qui, quand ils traduisent, trahissent.
Ah, c'est ça, oui.
Chez nous, c'est
jamais,
un exercice.
Jamais.
C'est un exercice de tous les jours qu'on doit renouveler la traduction.
Ah,
en même temps que la déclamation orale de la Torah, on la traduit.
Ah ouais, très bien.
En Shilin Lasher.
Ah voilà, bravo. Donc il faut pas traduire. Il faut traduire, il faut écrire aucune traduction, d'après ce que vous dites.
C'est oral.
Voilà, c'est ça. Il faut rester oral. D'accord.
Vas-y, Walter.
Alors, je vais... Oui, bonjour. Bonsoir. Je vais vous poser une question très simple. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'était... Oui, je voulais vous remercier parce que ça, c'était tout à fait passionnant ce que vous avez raconté. J'ai écouté une histoire très humaine, très, très politique, en fait, d'une certaine manière, du nom de Dieu. Mais plus à vous entendre ou à vous écouter qu'une histoire presque du tétragramme ou du nom de Dieu, j'ai presque entendu l'histoire d'une absence de nom de Dieu. Et d'une absence du nom de Dieu. Et j'aimerais vous poser la question de savoir que vous évoque cette question, enfin l'absence. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire un mot? L'absence de nom. En creux, il y a presque comme une histoire d'absence de nom.
L'absence de nom?
Oui, un peu.
Ah, le nom caché. Ah oui, d'accord. Ah oui, le nom caché, oui, mais ce n'est pas l'absence du nom, parce qu'on sait qu'il est caché. Donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de parler. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur le fait que le nom est caché, mais qu'il n'est pas complètement caché. Mais que de toute façon, il ne s'agit que de nom. Voilà. Mais en même temps... Si vous voulez, la chose importante, c'est cette notion qui est pas évidente, que le nom a une puissance, y compris créatrice, en soi, en tant que nom, sans être le nom d'eux. Vous voyez ? Voilà.
Eva ?
Est une vraie question sur ce mystère, au fond, cette particularité de l'usage du nom de Dieu, hein, d'un Dieu présent, caché, mais pas vraiment absent, et la position du peuple juif. Il y aurait peut-être un lien intrinsèque et qui expliquerait aussi la difficulté à se situer par rapport à ce peuple.
Évidemment, je peux vous dire quelque chose que j'ai découvert il y a un jour, au moins, même.
La tragédie des Arméniens actuellement. Et il se posait la question de pourquoi on ne parle pas de cette tragédie. Bon, alors évidemment, c'était un peu avant le 7 octobre qu'il écrivait ça. Et la réponse qu'il donnait, c'était que parce que justement les Arméniens ne sont pas reconnus comme peuple. Et que, en réalité, pour lui, l'aliénation provient de la non-reconnaissance. Et je crois que, en ce qui concerne le peuple juif, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que une des sources, apparemment, de l'antisémitisme, c'est la non-reconnaissance comme peuple. Et le fait d'avoir cantonné les juifs à une religion, une profession, comme on dit. Et ça, c'est le prix qu'on a dû payer à l'assimilation. L'assimilation a été une très bonne chose, mais Clermont-Tonnerre, n'oubliez pas, avait dit rien au peuple, tout aux individus, rien au peuple. Alors ça continue, et jusqu'à maintenant, si vous avez compris, les raisons pour lesquelles l'État d'Israël a du mal à se faire reconnaître, c'est aussi ça, c'est parce que des gens, y compris de bonne volonté, pensent qu'il n'y a pas de légitimité pour des gens qui ont une religion d'avoir un État. Et bon, c'est...
Il disparaît en somme, défini par notre foi, en somme, notre absence de foi.
Il n'y a pas de soi.
Justement pas.
Mais pas en tant que peuple.
Ben c'est ça, écoutez, quand ils disent les Français de profession juive, Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire même si vous croyez en rien du tout, vous êtes quand même de confession juive. Vous comprenez, c'est extraordinaire. Parce qu'ils n'osent pas dire aux juifs. Parce que ça, il y a encore le caractère d'insulte que
il
ça portait.
En France, on dit ça. Il n'y a qu'en France qu'on dit confession juive. Dans les autres pays,
on... J'ai pas entendu là.
Il n'y a qu'en France qu'on dit confession juive. Dans les autres pays, il n'y a pas de confession juive.
Alors, dans les autres pays, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est aussi une foi. C'est aussi une religion. Regardez aux États-Unis. Et en plus de ça. Ben évidemment. Écoutez, alors aux États-Unis, c'est obligatoire. C'est-à-dire même, il faut absolument que vous apparteniez à une paroisse, donc à une synagogue comme à une église. C'est-à-dire que n'importe laquelle, mais il faut quand même que vous soyez. Donc, vous savez, une fois, moi, il m'est arrivé aux États-Unis, une fois, j'étais dans un taxi, dans un coin perdu des États-Unis, et je venais d'Israël, et le chauffeur de taxi m'a demandé d'où vous venez. Alors j'ai dit d'Israël, il m'a dit, vous savez, ici, nous on aime peut-être, on aime tout le monde, mais il faut croire en Dieu.
Pierre Khalifa.
Bonjour professeur, et merci Pierre Khalifa, je suis un peu médecin comme vous. J'ai lu votre livre « Croire et ne pas croire en Dieu ».
Et croire et ne pas croire,
oui, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, en fait. J'ai fait exprès le lapsus.
C'était un dialogue avec mon ami.
Justement, oui. M'impressionnait. Enfin, votre culture, votre connaissance, c'est impressionnant. Mais je me pose une question. Donc, vous essayez, vous avez développé connaissance du nom caché de Dieu. Alors, et pourtant, vous répondez à la question de ne pas croire. Donc, est-ce qu'on peut passer autant de temps? Qu'est-ce que vous mettez dans le mot croire? Puisque vous nous dites souvent qu'est-ce que vous mettez dans le mot Dieu. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous mettez dans le mot croire. C'est comment on peut accorder autant de temps et autant d'énergie à ce travail en se posant la question pas croire en Dieu. Pas croire, ne pas croire. Voilà.
Ben oui, mais parce que la question de croire, c'est une question en soi, indépendamment de Dieu. C'est-à-dire on croit un peu de choses. D'ailleurs, enfin, pour ça, il faut. J'ai même écrit un petit truc qui s'appelle justement. Croyance au pluriel, dans lequel j'essaye de faire une espèce de classification des différentes sortes de croyances, en suivant d'ailleurs des grands maîtres comme Wittgenstein, etc., qui lui aussi a écrit, a écrit un livre sur justement la certitude, la croyance, etc. Et lui d'ailleurs a fait une remarque extraordinaire que les croyances religieuses en général, eh bien, ont un statut tout à fait particulier et qu'en réalité, on ne devrait même pas les appeler croyances. Parce que pour lui, la croyance, eh bien, c'est tous les jours. La croyance que demain, le soleil va se lever, ça, on y croit. Bon, pourquoi on y croit? Ben, on ne se pose même pas la question. Il y a des croyances que ma main fait partie de mon corps aussi, on y croit. Alors même que parfois, il y a des états pathologiques dans lesquels ce n'est pas tout à fait le cas, etc. Donc, il y a tout un tas de croyances de toutes sortes qui sont justifiées ou pas justifiées, suivant les conditions dans lesquelles, qui sont fortes ou moins fortes, avec exception, sans exception, etc. Et au milieu de tout ça, il y a les croyances religieuses. Alors celles-là, elles sont complètement à part, parce que justement, elles sont indiscutables. Vous comprenez? C'est-à-dire que le phénomène de la foi religieuse, eh bien, c'est indescriptible. C'est-à-dire où vous avez, où vous l'avez pas, ça vous tombe dessus, ou ça vous la perdez. Enfin bon, etc. Donc il analyse pas mal ce phénomène des croyances religieuses. Qu'il accepte comme phénomène évidemment humain, quoi, mais qui ne fait pas partie en quelque sorte du phénomène plus général de la croyance.
Mais vous pensez ça aussi du judaïsme, c'est-à-dire que ça tombe dessus ou ça tombe pas dessus?
Oui, bien sûr.
Ah oui, d'accord. Bien
sûr. Non, mais attendez, les chrétiens parlent de la grâce, mais enfin, dans le judaïsme, vous voyez autour de vous, il y a un tas de gens d'ailleurs qui, à tort, à mon avis, par exemple, abandonne les mitzvot en disant, voilà, il ne croit plus. D'ailleurs, en hébreu, ils disent, anilom amin velohim, etc. Donc, c'est fini.
Mais vous pensez que parce qu'ils disent ça, réellement, c'est de l'ordre de croire? C'est pas parce qu'ils disent ça que c'est réellement ça? Vous dites des tas de choses qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on peut ressentir.
Bah, attendez,
l'expression n'est pas forcément juste.
Attendez, ce n'est pas une expression générale quand une personne parle d'elle-même en disant « je ne crois pas en Dieu ».
Oui, mais qu'est-ce qu'elle croyait avant? À quoi elle croyait?
À autre chose. Elle croyait que le soleil se lève.
Vous voyez bien qu'on ne peut pas la définir vraiment ce qu'elle disait. Elle dit « je ne crois plus », mais à quoi elle croyait?
Ah non, à quoi elle croyait, ça vous... En général, d'ailleurs, il y a une réponse. Alors on vous dit « c'est le Créateur, s'il est tout-puissant, il est ceci, il est cela, etc. »
Moi, je pense que Mais ce que j'entends, en fait, c'est que vous avez moi, je ne suis pas aussi érudit que vous, mais vraiment pas du tout, même. Mais, ah non. Alors, je vais vous dire, j'ai dit, moi, je vais vous poser une question très naïve, très, avec le peu de connaissances que j'ai, le peu de choses. J'ai l'impression que d'entendre un rapport presque chrétien au judaïsme. Je le dis comme ça parce que j'ai l'impression que ce que vous dites. Non, mais je le dis, c'est parce que c'est le mot croire et le mot foi qui me choque. Par rapport à un texte, par rapport.
C'est précisément ce que je dis.
Ah, pardon, j'ai pas compris. Alors, excusez-moi. Non, mais parce que vous dites que la foi, ça tombe comme ça.
Effectivement, quand vous demandez à quelqu'un pourquoi est-ce que tu crois en Dieu, ou pourquoi est-ce que tu n'y crois pas, eh bien, les réponses qu'on reçoit, eh ben, elles valent ce qu'elles volent, mais en réalité, il n'y a même pas de possibilité de discuter. Il n'y a pas d'argument, il y a des raisons psychologiques, probablement, il y a des raisons sociales aussi, il y a des raisons, tout un tas de raisons, mais tout à coup, les gens me disent, ah ben non, ça y est, soit tout d'un coup j'ai eu une révélation, il y a des gens effectivement qui ont des révélations et qui se convertissent à tout ce que vous voulez, etc. Mais ça aussi,
il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de ces révélations-là et qui ne parlent pas de croyance et qui ont un rapport. Peuvent être de l'ordre de la foi, comme vous dites. Moi, je
ah, c'est pas moi qui le dis, justement, c'est vous qui le dites. moi je ne parle pas de la foi, au contraire, je pense qu'en réalité, pour ce qui concerne les textes dont j'ai essayé de vous présenter quelques-uns, eh bien, ces questions-là ne se posent pas, alors que d'habitude, justement, on croit qu'elles se posent.
Voilà. Si je peux ajouter, la foi, c'est chrétien, c'est émouna. Oui. Si on doit dire quelque chose, c'est Emouna plutôt que foi. La foi, oui. C'est typiquement chrétien.
On est d'accord.
Dieu, c'est Deus. Mais c'est chrétien.
Mais Emouna, c'est pas la foi, justement.
C'est la confiance. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la foi, c'est pas chrétien.
Non, mais il me semble que dans Emouna, qui est de l'ordre de l'entraînement, qui est de l'ordre de. Il y a une racine comme ça, non? Non, j'ai une bêtise? Dites-moi.
Ah, je ne dis pas que c'est une bêtise, je ne suis pas sûr que vous ayez raison, c'est tout.
Moi non plus.
Ouais.
Raphaël Benamoudi.
Monsieur. Oui. Moi, j'ai une question. Si je posais la question et que vous avez juste trois possibilités de réponse, soit oui, soit non, soit ne se prononce pas, est-ce que vous croyez en Dieu? Ouais. Ok. C'est intéressant.
Rachid a écrit qu'il faut dire Shema Israël, puis après Hachem Elokeinu, mais à l'époque, ça sera Hachem Echad. C'est pour dire un atemporel. Rachid est en train de dire l'aspiration de l'homme d'un atemporel, ou il est en train de dire deux moments?
C'est tous les hommes. La première partie de Shema Israël, c'est pour Israël maintenant, et la deuxième partie, c'est pour tous.
Mais tous les jours, on doit le dire, ce futur.
Ah oui, on le dit.
Pourquoi ?
On le dit pour les autres dans le futur.
C'est pour les autres ou c'est pour nous d'aujourd'hui ?
Mais pour nous d'aujourd'hui, c'est déjà fait, puisque c'est la première partie.
Mais on doit mentionner tous les jours qu'il y a un temps.
Pour les autres.
C'est pour les autres ou c'est pour nous qu'ils disons ?
Comme le verset de Zacharie.
Azé, por, safahat. Mais c'est aujourd'hui, tous les jours, le juif, il doit dire tous les jours qu'il existe un temps pareil. Ce n'est pas son aspiration au juif, à ce moment-là. On parle d'un.
On dit qu'il sera un.
Mais on parle du monde d'Harry Potter à ce moment-là, quand on fait schéma tous les jours. Vous seriez d'accord peut-être d'entendre ça comme ce qu'on force, on lui met dans la bouche aux juifs tous les jours de dire que ce moment-là, il doit en aspirer déjà aujourd'hui.
La composition de la Torah écrite de Moshe, dans la Torah orale qui nous le fait dire le matin et le soir, alors que c'est marqué dedans aussi dans le texte lui-même. Vous voyez, donc ça c'est un des trucs qui sont extraordinaires, c'est-à-dire que la mitzvah, l'action de la mitzvah contient elle-même le commandement de la mitzvah. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que, d'après Rashi, en tout cas, tous les jours, on est censé se rappeler cette prédiction de Zacharie qui dit « En ce jour-là, il y a Hashem Echad, Vushmo Echad. »
Donc c'est une réalité dans la manière dont on doit le dire. Tous les jours, on doit dire quand on fait Shema, on dit « Aujourd'hui, c'en est ainsi, mais ça ne peut pas rester ainsi. »
Mais pas quoi ?
Mais ça ne va pas rester ainsi. C'est pas abouti à rester ainsi.
Je ne comprends pas ce que vous me dites là.
Que Hashem Elokeinu, c'est pas ça sa finalité. Sa finalité, ça soit Hashem Echad. Et tous les jours, le juif, il doit dire deux fois par jour que la finale, ça ne peut pas être, ça ne peut être que le temps d'aujourd'hui de dire comme ça, mais on doit dire qu'il y a un autre temps.
Mais pourquoi pas ? Mais on parle du futur aussi aujourd'hui, on a le droit de parler du futur.
Je vous demande si c'est du futur qu'on parle, quel intérêt de parler du futur ?
Quel intérêt de parler du futur ?
Et ah, hier... qui est Machia Mabira ? Tu verras déjà, tu veux déjà t'intéresser à ce que le Machia arrivera, tu verras déjà. Quel intérêt de parler de ça ? Si ce n'est pour dire que ça... Une aspiration des
parce, parce qu'il faut quand même qu'on se débrouille avec que sera, sera. Ben oui, c'est ça le yé, vous comprenez, c'est ça, le futur.
Je te l'ai dado. Henri, vous m'avez déçu en répondant non à la question de... J'attendais une autre réponse. J'attendais pas oui. Non, j'attendais pas oui, mais... J'attendais une autre réponse. Alors, moi, je... Moi, je reviens au point de départ de notre séminaire. Notre séminaire est parti du livre de Danny Trom, qui est lui-même, si je puis dire, une interprétation sans le Talmud, mais c'est quand même une interprétation qui tient compte de beaucoup de commentateurs, du livre d'Esther.
Oui, absolument. J'ai beaucoup aimé
son livre. Voilà. Donc moi, j'aurais voulu une réponse du type de celle du livre d'Esther. C'est-à-dire l'histoire juive s'écrit avec une absence du nom de Dieu. Maintenant, chacun en fait quelque chose. Mais je dirais, si je synthétise de manière un petit peu simpliste les travaux depuis 2 ans, c'est que si nous sommes là... C'est qu'il y avait quelque chose dans le livre d'Esther qui est un secret que nous portons, nous ne savons pas comment. Alors peut-être qu'on ne peut pas le nommer, mais c'est sûr que dans ce que nous vivons depuis quelques années, où il y a des hommes qui tuent en disant « Dieu est grand », moi je préfère que Dieu soit petit ou que même, à la limite, il soit caché. Mais comment vous pouvez formuler l'idée ? Parce que dire « non », ça veut dire que quelque part... Bon, parlons d'un autre sujet. Alors que nous vivons avec l'idée qu'il nous accompagne. On ne peut peut-être pas le définir, mais il nous accompagne. Alors on cherche à le nommer, on cherche à dire des mots pour le représenter, mais on cherche, ce n'est pas quelque chose qui est... quand on cherche, c'est que ça existe. Quelque chose qui n'existe pas, on ne le cherche pas. Je ne sais pas. C'est ma question.
J'en profite pour dire que et Danny Trom et Catherine Chaly s'excusent auprès du Rav et du professeur Attan de ne pas être là aujourd'hui parce que retenus pour des salons du livre.
Alors là, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit.
Non, Danny Trom et Catherine Chaly s'excusent auprès de vous et du Rav de ne pas être présents aujourd'hui. Ils sont d'habitude là, ils sont retenus à des salons du livre, un à Paris Danny et l'autre Trump. Au Mans.
Et l'autre, c'est qui alors, Danny...
Catherine Chaly.
Ah, Catherine Chaly, d'accord. Écoutez, pour tout vous avouer, jusqu'à il y a quelques années, quand on me posait cette question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?», alors ben, je ne savais pas comment répondre, honnêtement. Et donc, alors soit je disais, ben, soit je répondais comme un bon juif par une autre question, en disant « De quel Dieu vous voulez me parler ?». Alors à ce moment-là, la personne elle-même ne savait plus très bien comment se débrouiller, et c'est comme ça que moi j'arrivais à m'en sortir. Et puis, bon, finalement, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que tout ça était source de malentendus, quoi. D'ailleurs, je dois dire que mon existence dans l'État d'Israël et ma confrontation avec l'hébreu israélien, quoi, m'a beaucoup aidé dans cette prise de conscience. Parce que là, je peux vous raconter des anecdotes qui sont assez comiques, d'une certaine façon. Parce que, comme vous le savez peut-être, ben, une proportion assez grande, je ne sais pas si c'est la majorité maintenant ou pas, parce que maintenant, là, je vais vous dire quand même que c'est difficile de savoir, parce que la kippa n'est plus un signe de quoi que ce soit, au contraire, même, enfin bref, moi, je ne veux pas... En tout cas, quand je suis arrivé là-bas, bon, ça, je vous raconte un petit peu des choses, des anecdotes. Quand je suis arrivé à l'Institut Weizmann, où évidemment tout le monde parlait anglais, et alors moi, bon, ben, j'essayais mon hébreu d'exil, justement, avec les secrétaires et avec les techniciens, etc., avec qui j'arrivais à parler anglais, hébreu plus ou moins. Et alors, et un jour que je parlais avec la secrétaire Aaron Katzir, et donc avec elle, je parlais hébreu, et elle me parle en hébreu, et puis au milieu de l'hébreu, elle me dit « Thank God ». Ah bon, au milieu de l'hébreu, il y a l'anglais qui venait, parce que évidemment, ça vient souvent, parce que, bah, surtout à l'Institut Weizmann où tout le monde parle anglais, donc, ah bon, alors, cinq ans. Puis après, tout à coup, j'ai pris conscience de quelque chose d'assez intéressant, une invention israélienne qui a consisté à dire Toda Lael. Alors là, bon, au début, je ne faisais même pas attention. Et puis après, tout à coup, j'ai réalisé pourquoi est-ce qu'ils ont inventé ça, Toda Lael. Alors qu'il existe, comme vous savez, on peut dire Baruch HaShem, on peut dire tout un tas de choses comme ça. Eh bien, non, pour eux, c'était impossible, parce que Baruch HaShem, ils ne pouvaient pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, ils ne disaient pas Baruch HaShem. Et ils ont trouvé Toda Lael. Toda Lael, c'est la traduction littérale de Saint God, de Dieu merci, et en français, de Dieu merci aussi. Et c'est ça qu'ils disent. Ils disent Toda Lael. Et de la même façon, d'ailleurs, quand il vous disait, jusqu'à maintenant, « Ata ma'amin b'Elohim ou lo ma'amin b'Elohim ?» Alors ça, en français, on va vous dire « Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu ?» Et puis, non, c'est pas du tout comme ça. Et donc, mais c'est pour ça que j'ai pris la décision, finalement, de dire non. Voilà.
Une question ?
Oui, professeur, je voulais juste vous faire remarquer que Toda Lael se trouve dans l'Utsato. Toda Lael, ce n'est pas une invention israélienne, c'est dans l'Utsato. Voilà.
Ils l'ont bien adopté, celle-là. Oui.
Oui, j'avais envie de dire trois choses, en fait. Une première, c'était pour Binyamin, à Bitbol, que pour aller dans ton sens, d'ailleurs, je voulais dire que, de toute façon, le Shema Yisrael, vu que c'est... Il y a un seul prédicat dans Hachem Elokeinu ou Hachem Echad, le seul prédicat, c'est Echad. Et comme c'est dans le Shema Israël, c'est donc à Israël qu'il est dit Hachem Echad. Puisque Hachem Elokeinu n'est pas, pour Rashi, je dis bien, pour Rashi, ce n'est pas un prédicat. C'est l'épithète d'Hachem. Hachem, qui est déjà connu comme notre Dieu, sache Israël, ou écoute, enfin entend, comprend qu'il est Echad. Bon, ça, c'était juste un point. Un deuxième, c'est que, oui, ça serait une lecture, en fait, du Passouk, du verset qui parle de Erike Hachereke. En fait, j'aurais même pas dû dire comme ça parce que j'ai une lecture personnelle du pasouk Yud Dalet dans Shemot. Vayomer Elokim El Moshe, Ehiyeh Asher Ehiyeh. Il n'est pas du tout en train de répondre en donnant son nom. Jamais, nulle part dans un verset, vous verrez quelqu'un dire son nom directement, comme si on disait à quelqu'un comment t'appelles-tu et qu'on voyait tout de suite le pasouk dire Yaakov. Pas du tout. Il aurait dit, par exemple, Shemi ou Annie, Ehyeh Asher Ehyeh, si vraiment il a voulu dire son nom. Donc ça montre que dans ce premier, bien que la question de Moshe ait été la question de son nom, Hachem, dans un premier temps, refuse de lui répondre. Ou plutôt, il plaisante. Il plaisante avec lui en disant, enfin pas tout de suite d'ailleurs, il lui dit plutôt, il répond par une phrase. Une phrase, c'est pas tout à fait un nom. Il répond directement. Il répond « Erie, Asher, Erie ». Je serai que je serai. Ou bon, ce que, si vous voulez. Et à ce moment-là, c'est là que je dis qu'il plaisante. « Vayomer kotomar, livne Israël, Erie, Shelachani ». Et tu vois d'ailleurs, cette phrase que je t'ai dite, tu peux en faire un nom. Tu peux en faire un nom que tu présenteras au Bnei Israël. Ce serait de dire voilà, c'est Erie qui m'a envoyé. Alors attention, je ne dis pas, quand je dis plaisanterie, c'est pour dire que cette plaisanterie au niveau d'une lecture première du verset qui va être dépassée par un moment plus sérieux, cette plaisanterie n'est pas du tout, elle est extrêmement profonde évidemment, puisque, comme vous l'avez très bien dit, kabbalistiquement parlant, Erieh sera finalement le nom le plus profond d'Hachem, celui qui correspond à la Sphira de Keter, mais celui justement qui n'est pas le nom manifeste d'Hachem. Alors c'est pour ça que c'est comme si par la suite... Attends, pardon ?
Quand vous dites le nom de Hachem, Hachem ça veut dire le nom.
Oui, excuse-moi, quand je dis, moi personnellement, quand je veux dire Dieu, je dis Hachem. Parce que je n'aime pas le mot Dieu en fait. Donc je
dis... C'est quand même à ça que vous pensez.
Pardon ?
C'est quand même à ça que vous pensez quand vous dites Hachem.
Je pense, si vous voulez, alors selon les cas, au principe de l'existence, au créateur du monde, enfin je ne sais pas.
Pourtant ça veut dire Hachem, ça veut dire le nom quand même.
Oui, mais ça me gêne, vous savez, ça ne me gêne pas de, ça me gêne pas de l'appeler le nom.
Excusez-moi pour la parenthèse, parce qu'on est revenu un peu en boucle sur cette question de Hachem. Et Hachem, ça veut dire le nom, mais c'est aussi un nom de Dieu dans certaines sources. Kabbalistiques, notamment.
Le nom ? Ah, non, pardon. En hébreu.
Shikatina, par exemple.
Je voudrais quand même terminer ma lecture du Passouk. Je voulais dire que c'est comme si ensuite, Vayomer, Od, Elohim el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, Yudke Vavke, Elohe Avotechem, Elohe Abraham. Je dis Elohe parce que quand je vois Elohim dans le texte, je dis Elohim, c'est vrai, par pardonner cet acte de piété. Mais quand je vois Dieu de, dès que le nom Elohim se met à l'état construit, ou etc., à ce moment-là, je dis Elohe ou Elohim. Et donc, que lui dit Elohim à Moshe ? Eh bien, trêve de plaisanterie. Maintenant que j'ai plaisanté en disant « Tu diras que je m'appelle Erie », non, voilà ce que tu diras. « Yudke Vavke » Dieu de vos pères, etc. Voilà celui qui s'est présenté à moi. Bon, ça, c'était donc juste une lecture pour dire qu'effectivement, la substitution sérieuse du nom manifeste à la plaisanterie qui cache en fait le nom profond, c'est comme ça que j'entends ce verset. Et je voulais terminer par une troisième remarque, c'est que... Excusez-moi, j'ai besoin de... C'est qu'au fond, la Torah orale, elle est peut-être tellement inhérente à la... imbriquée dans la Torah écrite.
À la quoi ?
Elle est tellement imbriquée dans la Torah écrite que je l'aperçois personnellement dès le début de toute lecture de la Torah écrite. C'est-à-dire que j'arrive si peu à séparer que je me demande si toute cette séance sur la vocalisation du nom d'Hachem n'est pas le secret de ce que vous cherchez à dire. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas dire que la Torah écrite, c'est « yutke vavke », c'est-à-dire des consonnes imprononçables qui ne sont pas encore lues. Et si je veux lire « yutke vavke », je dois, d'une manière ou d'une autre, le vocaliser. Et la vocalisation, c'est ça, la Torah orale. Voilà ce que je vous propose. Voilà.
Comment dit pour vous, Dieu est un plaisantin.
Dieu est un
plaisantin.
Oh non, je ne vous laisserai pas de vous faire dire ça.
Ah ben vous venez de le dire. C'est ce que vous venez de dire.
Que Dieu ait pu plaisanter une fois.
fois, ou peut-être deux ou trois.
Ah ben d'accord.
Ne signifie pas que c'est un plaisantin.
Ah bon, alors une fois, il a été plaisantin.
J'appelle ça être un plaisantin, j'appelle ça plaisanter.
Ah d'accord. D'accord.
Ah, dernière question pour Yona et ou Binyamin, je ne sais plus. Peut-être un duo. David Boll.
Juste quand on va dire la Torah orale, Rav Safra, par exemple, on peut imaginer qu'il connaissait que la Torah orale et pas la Torah écrite dans la Gemara de Avodah Zara, quand vous l'avez ramené vous-même. Ça donne quoi comme Torah ? Complètement déconnecté d'une révélation de tout, puisque ça a été une invention. La Torah orale. C'était une invention après Rabbi Yochanan ben Zakkai pour pouvoir sauvegarder le judaïsme. Mais Rav Safra, il connaissait que le Sefer. Enfin, excusez-moi, tout sauf le Sefer.
Ah, il dit pas ça.
Ben, il savait pas répondre, lui, dans les psoukim.
Il savait pas répondre à un verset.
Ah, bon, d'accord. Donc, ça veut dire, en fait, quand vous nous l'amenez en introduction, moi, je voulais juste vous comprendre. Ça veut dire, quand vous l'amenez en introduction, c'est pas qu'on peut imaginer une Torah orale sans Torah écrite.
Dans sa discussion avec ses collègues et ses élèves, même au sujet de l'histoire du four d'Arnaï, etc. Bon. Donc, et là, il a fait des miracles, il a fait remonter le fleuve latin, etc. Bon, et puis jusqu'à ce qu'on lui dise non, la Torah n'est pas au ciel, c'est chez nous, etc. Bon, ça, c'est l'histoire de Rabbi Eliezer. Après quoi, il a été mis en ido, il a été rejeté. Et puis ça se termine par un drame, à savoir que Rabban Gamliel meurt, etc. Ben, bon, toute une histoire. Et bon, ça c'est Rabbi Eliezer, donc qui était à la charnière. Il était à la fois un grand maître, évidemment, de la Mishnah, mais en même temps aussi, il faisait de la magie. Un petit peu, d'ailleurs, Rabbi Akiba lui-même aussi, enfin, il raconte qu'il y a différentes sortes de magie, des bonnes et des mauvaises, etc. Bon, donc ça, c'est pour Rabbi Eliezer qui était à cheval. Eh bien, en même temps que lui, il y avait Plutarque, qui était donc un philosophe, un historien de la philosophie, par le marché, qui en même temps était prêtre d'Apollon à Delphes, et qui faisait parler la Pythie. Donc, autrement dit, c'était, lui aussi était à cheval comme ça sur les deux mondes, vous voyez. Donc, alors, c'était le monde aussi qu'on dit, la fin de la prophétie, donc il n'y a plus de prophète, etc. Alors, tout ça aussi, ce sont des ruptures avec lesquelles, bon, il faut s'arranger. Alors, il n'y a plus de prophète, mais quand même, Chacham a défini David, donc on remplace les prophètes par les Chachamim.
Oui, bon, ça pose un problème quand même, dans la mesure où il s'agit quand même de répondre au minime. Et comme vous l'avez indiqué à propos des deux parties du schéma, il y a une partie qui concerne les juifs et puis il y a une partie qui concerne les
juifs. Pour le futur, oui.
Le futur, oui. Or, le futur, c'est répondre à ces questions-là, justement.
À quelles questions?
Et bien, justement, ces questions qui sont dans la Torah écrite que connaissent seulement les minimes, justement.
Ah, ben ça dépend. Ben évidemment, si vous vivez dans un milieu chrétien sous occupation romaine, en plus, il ne faut pas oublier, parce que tout ça, ça se passe comme ça. Eh bien, c'est différent que de vivre, par exemple, je ne sais pas moi, soit en Afrique du Nord, en milieu musulman, soit en France, en milieu chrétien, etc. Je veux dire, en milieu chrétien, après la Révolution, après l'assimilation, etc. Tout le monde dit, toute l'histoire, quand même, n'est pas la même. Donc, l'histoire de Babylone, d'ailleurs, il y a des passages aussi dans le Talmud, parfois, où les... Alors, ça a l'air curieux, mais où les Juifs de Babylone l'emportent, d'après le Talmud, sur les Juifs d'Eretz Israël, pour des histoires de mariage, pour des histoires comme ça. Enfin, il y a tout un tas de trucs. C'est comme si, aujourd'hui, on disait que les Juifs de diaspora, des États-Unis par exemple, peut-être aussi un peu de France, je ne sais pas, eh bien, l'emporte sur les Juifs de Eretz Israël.
Oui, c'est
comment?
C'est un débat actuel.
Oui, c'est un débat, quoi, bien sûr.
Alors, Yonah Bidwell va clore cette session de questions très riches, si bien lancée par Avishag Zafrani.
Je voudrais revenir sur la vocalisation du tétragramme. Quel genre de preuves on peut amener archéologiquement et linguistiquement sur la vocalisation, étant donné que les signes de vocalisation, comme tout le monde le sait, ils n'existent pas dans l'écriture des langues sémitiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous révéler comment, archéologiquement, on peut savoir qu'est-ce qu'il y avait comme ponctuation ?
Eh bien, tant mieux pour vous.
Un immense merci au professeur Henri Aplan. Un grand homme, comme il a cité.